Chers amis, bonjour. Nous sommes le 31 juillet, ce qui signifie que nous terminons notre 7e mois de lecture biblique ensemble. Permettez-moi de vous dire félicitations. Bravo, bien joué. Je partage cette joie avec vous. 7 mois déjà, 7 mois. C'est incroyable, c'est hallucinant. Et j'espère que vous êtes aussi fiers de vous que moi je le suis de vous et de nous. Mais il ne faut pas que je m'égare, parce qu'en parlant de la vitesse à laquelle les jours passent, les semaines et les mois passent, eh bien, on perd du temps et vous avez envie d'écouter la Bible, je crois. Alors, au lieu de cela, je vais passer tout de suite le micro à Laurence. Et comme c'est son habitude, eh bien, elle nous lira dans la Bible second 21. Vous la retrouvez donc tout de suite, et moi, vous me retrouvez dans quelques instants. Laurence, voici le micro.
Deux Chroniques 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les lévites qu'il rassembla sur la place orientale, et il leur dit « Écoutez-moi, lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. En effet, nos pères ont fait preuve d'infidélité, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné. Ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert ni parfum ni holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. La colère de l'Éternel a donc reposé sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés à la terreur, à la dévastation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos propres yeux. C'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée, et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en déportation. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Les Lévites suivants se levèrent alors, Makat, fils d'Amasai, et Joël, fils d'Azaria, qui faisait partie des Kéatites, parmi les Mérarites, Kis, fils d'Abdi, et Azaria, fils de Jéaléel. Parmi les Gershonites, Joach, fils de Zimna, et Éden, fils de Joach. Et parmi les descendants d'Elitsaphan, Shimri et Jeiel. Parmi les descendants d'Azaph, Zacharie et Matania. Parmi les descendants d'Eman, Jeiel et Shimei. Et parmi les descendants de Jedutun, Shemaïja et Uziel. Ils réunirent leurs frères, et après s'être consacrés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, respectant l'ordre du roi qui était conforme aux paroles de l'Éternel. Les prêtres pénétrèrent à l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les prirent pour les emporter à l'extérieur, au torrent du Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils parvinrent au portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient terminé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, ainsi que la table des pains consacrés et tous ses ustensiles. » Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne, en raison de son infidélité. Ils se trouvent devant l'autel de l'Éternel. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, rassembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux prêtres qui descendaient d'Aaron de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les prêtres égorgèrent les bœufs, prirent le sang et en aspergèrent l'autel. Ils égorgèrent les béliers et aspergèrent l'autel de ce sang. Ils égorgèrent les agneaux et aspergèrent l'autel de ce sang. On amena ensuite les boucs destinés au sacrifice d'expiation devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les prêtres les égorgèrent et versèrent leur sang sur l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. En effet, c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, suivant l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète. C'était en effet le commandement de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David, et les prêtres avec les trompettes. Et Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Au moment où l'holocauste commençait, le chant de l'Éternel commença aussi, au son des trompettes et avec l'accompagnement des instruments de David, le roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna. On chanta le cantique et l'on sonna de la trompette, le tout jusqu'à ce que l'holocauste soit terminé. Quand on eut fini d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui plièrent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs demandèrent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie avant de s'incliner et de se prosterner. Ézéchias prit alors la parole et dit « Maintenant que vous êtes établis dans vos fonctions, au service de l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices de reconnaissance à la maison de l'Éternel. » L'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices de reconnaissance, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent sacrifiées en holocauste à l'Éternel, et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les prêtres étaient peu nombreux, et ils ne parvinrent pas à enlever la peau de tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que la tâche soit terminée et que les autres prêtres se soient consacrés. En effet, les Lévites avaient eu un cœur plus droit que les prêtres pour se consacrer. Il y avait aussi beaucoup d'holocaustes, avec les graisses des sacrifices de communion et avec les offrandes liquides qui accompagnaient les holocaustes. C'est ainsi que le service de la maison de l'Éternel fut rétabli. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait préparé pour le peuple, car cela s'était passé très rapidement. Romains 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. L'un la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours et le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout, le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par ta nourriture, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Psaume 24. Psaume de David. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite. Car il l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne s'y livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Proverbe 20, verset 12. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits, l'un et l'autre.
Merci beaucoup, Laurence. Et permettez-moi de prier. Seigneur, nous te demandons humblement d'accroître notre conscience de toi et d'accroître aussi notre conscience de ceux qui nous entourent. Oui, Seigneur, aide-nous à voir ce qui se passe réellement dans la vie des gens que nous rencontrons. Que nous ne soyons pas superficiels, mais aide-nous plutôt à voir et à entendre la vérité de chaque fait, plutôt que d'être trop indifférent ou trop occupé pour remarquer quoi que ce soit. Seigneur, guide-nous, nous t'en prions, nous t'en supplions. Oui, guide-nous afin que nous puissions savoir lorsque c'est notre tour d'aider, lorsque nous devons aider, lorsque quelqu'un a besoin de nous, afin que nous puissions savoir aussi qui aider et surtout comment aider. Nous avons vraiment besoin de toi pour cela. Et j'aimerais te dire merci déjà. Merci parce que tu vas nous accompagner dans ce processus. Au nom de Jésus. Amen. Et nous arrivons à la fin de notre podcast, mes chers amis, mes chers auditeurs fidèles. Et j'aimerais vous féliciter encore une fois. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons terminé encore un mois ensemble, 7 mois complets dans la Bible. Nous avons dépassé la moitié de l'année. Et j'aimerais vous encourager à continuer. Il nous reste, vous le savez, 5 mois encore. Donc, restez avec nous. Et le premier pas vers la fin, ça sera demain. J'espère vous y retrouver pour la suite de notre podcast. Au revoir.